Radio Prague, les informations.
La police tchèque se mobilise pour protéger le sommet américano-russe à Prague. Simplification des procédures de visa pour les pays de l'espace Schengen. Finance, le tchèque PPF veut augmenter sa participation dans Generali. Selon le directeur de la police tchèque, Oldřich Martinů, les mesures de sécurité qui seront prises lors du sommet qui réunira à Prague ce jeudi les présidents américains et russes seront plus importantes que celles adoptées lors des récentes manifestations organisées dans le cadre de la présidence tchèque de l'Union européenne ou lors des congrès du Fonds monétaire international et de l'OTAN à Prague. 5000 policiers seront mobilisés dans la capitale tchèque et les frais des mesures de sécurité du sommet sont évalués à 40 à 50 millions de couronne, quelque 1,5 à 1,9 million d'euros. Pour le moment, la police n'a pas d'informations que les participants au sommet pourraient être exposés à des risques de sécurité. Les préparatifs de ce sommet s'intensifient à Prague, où sont notamment arrivés par avion un hélicoptère et des voitures blindées pour les chefs d'État. La Maison-Blanche a confirmé que le président Obama passera 2 jours à Prague et restera dans la capitale tchèque jusqu'à vendredi. Jeudi soir, il dînera avec 11 chefs d'État et de gouvernement de pays d'Europe centrale et orientale. Vendredi matin, il participera à une rencontre bilatérale avec le président tchèque Václav Klaus et le premier ministre Jan Fischer. La secrétaire d'État américain Hillary Clinton et le ministre russe des Affaires étrangères Sergei Lavrov seront également dans la capitale tchèque à l'occasion de la signature de ce traité. Et en attendant de connaître les détails du texte après la signature, les deux parties y vont de leurs petites phrases. Mardi matin, Sergei Lavrov a déclaré à la presse que la Russie pourrait ne pas respecter ce traité si les États-Unis poursuivaient leur projet de bouclier antimissile et que celui-ci affectait l'efficacité des forces nucléaires stratégiques russes. La précédente administration américaine avait prévu un bouclier antimissile qui comprenait notamment un radar en Bohème, mais ce projet a été abandonné par l'administration Obama. Le Fonds monétaire international a défendu son rôle en Europe centrale et orientale. Le FMI répliquait suite aux récentes critiques d'un dirigeant de la Banque centrale tchèque, Mojmír Hampl, qui affirmait dans un entretien pour le quotidien autrichien Der Standard que l'institution internationale avait accéléré la crise. Le FMI a contribué à enrayer la crise et ensuite à renverser la situation en agissant rapidement et avec détermination, a déclaré le directeur adjoint des relations extérieures, Jerry Rice, dans une lettre au journal autrichien transmise à l'agence France Presse. Simplification des procédures de visa pour les pays de l'espace Schengen. Depuis ce lundi 5 avril, l'Union européenne a simplifié et accéléré les procédures pour la délivrance des visas de courte durée dans l'espace Schengen, dont la République tchèque fait partie depuis la fin de l'année 2008. Météo. Ce mardi, fête de toutes les Vendulas, selon le calendrier tchèque, le ciel en Tchéquie est variable à nuageux et les températures se situent entre 10 et 14 degrés en Bohême. Merci d'avoir écouté ce bulletin d'information qui vous a été présenté par Václav Richter.
Faits et événements en République tchèque. Anna Kubišta.
Bonjour à toutes et à tous. Au programme de cette édition, dernière ligne droite avant le sommet Obama-Medvedev, on fera le point sur les préparatifs des autorités tchèques avant la signature de l'accord START jeudi. Tension aux abords du plus grand marché vietnamien de Prague. Le maire du quartier évoque la possibilité de la création de patrouilles pour surveiller les environs. Enfin, l'écrivain français Didier Deninck, c'est en République tchèque, auteur de nombreux polars. Il s'est souvenu à l'occasion de sa visite de son tout premier voyage à Prague avant la révolution de velours. Un voyage kafkaïen qui lui a servi d'inspiration pour un roman 5 ans plus tard. Tout cela, ce sera dans quelques instants sur Radio Prague. Bonne écoute de ce programme. C'est c'est un événement exceptionnel qui se prépare à Prague avec la cérémonie de signature du traité entre les États-Unis et la Russie sur la réduction de leur arsenal nucléaire, avec les sommets de l'OTAN et du FMI et la récente présidence de l'Union européenne. C'est sans aucun doute le rendez-vous diplomatique le plus important dans la capitale tchèque depuis la fin du régime communiste. Contrairement aux précédentes rencontres internationales, celle-ci doit être organisée à la dernière minute. Détail avec Alexis Rosenzweig.
À moins de 48 heures de la signature du nouveau traité START par les présidents russes et américains, le programme officiel de la cérémonie n'a pas encore été publié. C'est le bureau de la présidence de la République tchèque, le bureau de Václav Klaus, qui est chargé de l'organisation. Et les questions d'ordre logistique ne sont pas simples à régler, d'autant que le choix de Prague comme lieu de signature n'a été annoncé officiellement que la semaine dernière. Environ 1 millier de journalistes du monde entier ont déjà déposé une demande d'accréditation. On sait déjà que Barack Obama et Dmitri Medvedev devraient paraffer leur traité jeudi, en milieu de journée, dans la salle espagnole du château de Prague. Et le quartier du château, Hradčany, devrait rester bouclé pendant plus de 2 jours, à partir de mercredi soir et l'arrivée du président russe jusqu'au départ du président américain après sa rencontre avec Václav Klaus et le premier ministre tchèque Jan Fischer, qui est prévue vendredi matin. La circulation devrait être également bloquée à plusieurs reprises dans le centre-ville et sur la route Evropska qui mène à l'aéroport. Le trafic aérien sera également sans doute perturbé par les atterrissages et décollages des avions officiels, non seulement des délégations américaines et russes, mais aussi de 10 autres pays d'Europe centrale et orientale invités à Prague pour l'occasion. Jiří Dušek, un des responsables de la police pragoise, conseille tout simplement aux automobilistes de se garer à la sortie de la ville et de prendre les transports en commun, enfin surtout le métro, parce que les bus et les tramways seront aussi touchés par les multiples interdictions de circuler. Bref, on se doute que les Pragois seront sûrement soulagés quand tout cela sera terminé, vendredi après-midi. En tout, les mesures de sécurité devraient coûter environ 2 millions d'euros, selon le chef de la police tchèque. Et pour tous ceux qui seront à Prague à ce moment-là et qui voudraient plus de renseignements sur les rues et parkings fermés en cette fin de semaine, vous trouverez un lien sur notre site dont vous connaissez déjà l'adresse www.radio.cz.
La situation devient tendue à proximité du grand marché vietnamien Sapa, dans le quartier pragois de Libouch. Dans une lettre adressée au ministère de l'Intérieur, le maire de Libouch, Peter Mraz, indique que la criminalité croissante autour du marché pourrait amener des résidents à former des patrouilles pour surveiller le quartier. Yarka Gisubelova.
En raison de la crise, beaucoup de Vietnamiens ont perdu leur travail et mis le cap sur Sapa, qui est le centre de la communauté vietnamienne, en état dans l'état avec ses propres règles, estime Pavla Jedličková, une des adjointes du maire et présidente de la Commission pour la coexistence multiculturelle à Prague-Libouch. Selon elle, la situation devient intenable et pousse les résidents locaux à prendre en main le contrôle de la situation.
Il existe des signes de ce que des patrouilles se forment. Le dernier cas est celui d'un immeuble de la rue Na Domovinie, habité par un grand nombre de Vietnamiens, mais vers lequel se réfugient aussi beaucoup de leurs compatriotes qui n'ont leur résidence officielle ici. La situation devient dramatique, ces personnes souillent les couloirs, prennent des drogues et troublent l'ordre et le calme.
Selon les statistiques officielles de la police, pourtant, la criminalité n'a pas augmenté de façon flagrante dans le quartier de Libouch. Pavla Jedličková l'explique par le fait que les résidents n'appellent pas la police, mais s'adressent à leurs conseillers municipaux. Les directeurs du grand marché vietnamien autour duquel les tensions montent, Tran Quang Gung, refuse catégoriquement le fait que le marché Sapa soit la cause des problèmes de la criminalité croissante.
À mon avis, cela ne concerne pas le marché Sapa, car tous ceux qui y travaillent sont des entrepreneurs et la criminalité n'y augmente pas. En ce qui concerne les Vietnamiens qui habitent à proximité, je ne comprends pas pourquoi une liaison est faite entre eux et Sapa. Cela ne nous concerne pas. Le problème de ces gens dont vous parlez ne nous concerne pas.
Le problème de Pavla Jedličková confirme une collaboration étroite entre les conseillers de Libouche et le grand marché Sapa. Pourtant, la coexistence est loin d'être idéale, ce qui est dû, selon elle, à une concentration très importante d'une communauté étrangère sur le territoire d'un seul quartier municipal relativement petit. À ce dire, Libouche fait face à la création d'un ghetto qui dépasse le simple cadre de ce quartier et devient une question de sécurité de l'État tchèque. Après le vaste incendie qui a dévasté en novembre 2008 une partie du marché Sapa, la commission de sécurité de l'État a créé un groupe de coordination qui s'est réuni 3 fois depuis, sans prendre de décision concrète. Le grand marché Sapa, surnommé la Petite Hanoï, s'étend sur une superficie de 35 hectares et d'autres terrains aux alentours ont été rachetés par des membres de la communauté vietnamienne qui pensent y élargir leurs activités. 10% du fonds de logement du quartier de Libouche serait habité par la communauté vietnamienne qui représente presque un tiers des près de 10 000 habitants de ce quartier.
Dans le cadre du Festival de la culture française Bonjour Brno, qui se déroule dans la métropole morave jusqu'au 27 avril, l'écrivain Didier Deninx était de passage en République tchèque. Grande figure du roman policier français, écrivain d'engagement, il a publié en 1994 un roman intitulé « Un château en Bohème ». Cet ouvrage met en scène un journaliste, François Novacek, qui découvre le pays de son père après la révolution de velours lors d'une enquête. C'est lors d'un voyage surréaliste en Tchécoslovaquie en février 1989 que Didier Deninx est allé puiser la matière de son polar.
J'avais été invité pour participer à une rencontre d'écrivains autour du roman policier. Donc il y avait des écrivains, la moitié du bloc de l'Est, et puis la moitié des écrivains occidentaux. Et quelques temps avant qu'on arrive à Prague, on a appris l'arrestation et l'incarcération de Václav Havel. Et on a été quelques-uns, dans un premier temps, à vouloir annuler notre venue. Et puis après, on s'est dit que c'était peut-être plus efficace de venir sur place et de protester sur place et de manifester pour la libération de Václav Havel. Et donc, on est arrivé à la mi-février 89. Dès le premier jour, il y a eu une réception et une de nos très bonnes amies, une femme écrivain italienne, Laura Grimaldi, a publiquement, devant tous les gens rassemblés comme ça pour ce colloque, de plus de 200 personnes, dans les locaux de l'Union des écrivains, en face du théâtre Narodny, et elle a rendu hommage à Václav Havel. Et à notre grande surprise, sur les 250 personnes triées sur le volet qui étaient là, il y en a 200 qui se sont levées et qui ont applaudi pendant 10 minutes. Et donc ça a été vraiment d'une très grande force.
Donc c'était des écrivains de l'Ouest et de l'Est,
oui,
qui ont applaudi ?
Ah non,
dans
les écrivains, c'était le public. C'était le public convoqué par le ministère de la Culture à l'époque. Il y avait le secrétaire d'État à la Culture qui était présent, il y avait la télévision, il y avait tout ça. Non, dans les écrivains, il y avait beaucoup d'écrivains qui nous critiquaient, des écrivains de l'Est, bien sûr, mais là, on peut pas leur en vouloir. Mais la grande majorité des écrivains de l'Ouest nous disaient, bon, on se comporte pas comme ça quand on est invité. Et comment
ont réagi les autorités tchécoslovaques? Ils devaient être sérieusement embêtés.
Non, c'était un coup de tonnerre là, parce que ils avaient envie que ce colloque ce soit une sorte de soutien, puisque vous voyez, il y a les écrivains de l'Ouest qui acceptent de venir à Prague. C'est donc on n'est pas aussi méchant et qu'on le dit. Et donc d'un seul coup, cette opération politique explosait totalement. Donc ils ont annulé une grande partie des choses et ils nous ont emmenés dans un château qui appartenait à l'Union des écrivains, qui est à 30 km de Prague, qui s'appelle le château d'Obris. Et là, il y a une sorte de comédie qui s'est jouée d'un congrès sans objet et où on était 2-3 écrivains à interrompre les travaux toutes les 2 minutes en disant qu'on refusait de discuter littérature et que la seule chose à faire, c'était de faire une motion demandant la libération immédiate du plus grand écrivain vivant du pays qui nous recevait. Et on voulait aller porter cette pétition en délégation au château. Et donc ça a été pendant 2-3 jours d'une tension extrême.
Ils ont voulu vous expulser du pays ?
Alors, ce qui s'est passé, c'est que, à la fin, la tension était vraiment à son paroxysme, comme ça. Et moi, je suis intervenu une dernière fois, au bout de 5 jours à peu près, je suis intervenu une dernière fois en disant exactement ce que je pensais de l'attitude des gens qui étaient là. Avec un ami, Jean-François, on a commencé à visiter tout le château d'Aubris, parce qu'une partie du château nous était interdite, donc on n'avait pas le droit d'aller à tel endroit. Et on a ouvert toutes les portes, on allait regarder, on visitait, et d'un seul coup, on est tombé sur une salle où il y avait tout le système d'écoute du château. Et là, on a vu et puis il y avait 2-3 personnes dans cette petite pièce, comme ça.
Que vous avez surprise en train d'écouter. Oui. Et donc, du coup, ça veut dire que vos propres chambres devaient être mises sur écoute et tout.
Oui, c'était ensemble. Le système d'écoute de toutes les chambres du château. Donc, il y avait un système comme ça. Et heureusement que j'étais avec Jean-François, qu'on était deux, quoi. Parce que sinon, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, je n'arriverais pas à croire que ça m'est véritablement arrivé.
Et la suite des aventures de Didier Deninx en Tchécoslovaquie, ce sera dimanche dans Culture sans frontières, où l'on apprendra comment les autorités tchécoslovaques ont essayé de le corrompre pour le museler, et comment bien plus tard, après la Révolution, il a croisé Václav Havel, par hasard, dans la rue. C'est ainsi que s'achèvent les faits et événements en République tchèque sur Radio Prague. La suite du programme, c'est maintenant, toujours sur Radio Prague.
Panorama.
Panorama.
République tchèque.
Bienvenue donc dans cette rubrique du mardi, deuxième partie de la rencontre avec Vincent Moissenet, professeur de français au collège André Malraux de Paron en Bourgogne. Depuis 2003, il coordonne un projet pédagogique où une classe de troisième avec des élèves de 13 à 15 ans réalise chaque année un film sur une période de l'histoire européenne. Cette année, le thème est celui de la guerre froide et de la réconciliation en Europe. À cet effet, la classe de Vincent Moissenet est venue réaliser 2 jours de tournage à Prague. À chaque étape, les élèves posent leurs caméras dans les lieux historiques importants et ils interviewent des témoins de l'époque. Une rencontre avec l'histoire et une expérience pédagogique qu'explique Vincent Moissenet au micro d'un Claire Veluire.
À l'adolescence, on est à un âge où parfois on manque de repères un peu dans ce qui est imaginaire, dans ce qui est réel. Parfois, des élèves réagissent tout de suite, sont très ouverts à ce qui se passe, vont être touchés. Parfois, c'est bien plus tard qu'ils vont se rendre compte du côté réel de ce qu'ils ont entendu. Parce que parfois, c'est pour eux, c'est comme quelque chose d'irréel un peu. Ils verraient un film peut-être à la télé, ils seraient peut-être plus touchés que par le témoignage direct. Mais ça, c'est chacun vit ça différemment. On peut pas dire que tous ils vont vivre ça de la même manière. En tout cas, c'est sûr qu'ils vont être très touchés par un témoignage de quelqu'un qui leur parle en plus de son expérience d'adolescent. On a constaté ça depuis plusieurs années. Lorsque quelqu'un témoigne d'une expérience traumatisante, il a une façon d'en parler qui est celle de cette époque-là. Alors quand c'est quelque chose qui est vécu à 8 ans, il va en parler avec des détails qui sont ceux de la façon dont on ressent ces événements à cet âge-là. Qui me fait un peu penser aussi au récit d'Imre Kertész dans Être sans destin, c'est-à-dire que c'est une façon, et c'est ce qu'il nous a expliqué aussi parce qu'on a eu la chance de le rencontrer, donc ce grand écrivain hongrois qui a été déporté à Auschwitz, la façon dont j'ai écrit mon livre, c'est la perception que j'avais en tant qu'adolescent, c'est-à-dire que je ne savais pas où j'allais et je voyais les choses comme voilà, j'avais une certaine confiance dans les adultes et je ne m'attendais à rien de particulier. Je me disais, on va s'occuper de nous. C'est passionnant aussi. C'est passionnant parce qu'il y a évidemment une valeur d'authenticité, mais aussi de. Enfin, avec. Bon, on peut toujours dire que le témoignage est plus ou moins authentique parce qu'on transforme avec les années. Le récit est plus ou moins authentique. Mais en tout cas, il a cette force du souvenir et de la perception qu'on a eue des événements. Ce qui nous intéresse à Prague, évidemment, c'est de pas tout le temps ressasser les mêmes expériences, mais de comprendre d'autres aspects qui sont peut-être plus forts ici qu'en Pologne ou qu'en Allemagne, ex-Allemagne de l'Est. Ici, on était intéressé par le mouvement, je dirais, plus intellectuel, alors que ce soit celui des années 60, qui a abouti au printemps de Prague, projet politique porté par le Parti communiste en place à la fin des années 60 jusqu'en 68, et puis également la dissidence. C'est plus ce qui nous intéressait. Mais on s'intéresse également à d'autres aspects de l'histoire du communisme qui sont moins connus et qu'on aimerait faire connaître aussi. C'est-à-dire toute la première période d'installation du régime communiste avec les spoliations, les déportations, la construction de nouveaux camps qui sont des camps proprement communistes, qui ne sont pas seulement des camps nazis qui sont réutilisés comme en Allemagne, mais dans des pays où il n'y avait pas de camps de concentration, il y en avait, mais moins. Il y a des camps qui ont été multipliés, des camps de travail pour justement valoriser la main-d'œuvre des opposants. Exactement comme les nazis valorisaient la main-d'œuvre de leurs opposants dans les camps de concentration. Ça me paraît aussi important qu'on ne pense pas que les camps de concentration aient uniquement été la spécificité des nazis, hélas.
Je vais changer un petit peu de sujet, mais revenir avec le travail avec les élèves et sur tout le côté logistique un peu. On les voit se balader avec caméra, pied, lumière, valise et même fauteuil roulant pour faire les travelling. Comment ça se passe un petit peu tout ce côté logistique avec eux?
C'est un côté évidemment un peu folklorique. C'est un peu le folklore de cette classe. Mais c'est en même temps très sérieux. Il faut beaucoup de rigueur. Alors on n'a pas parfois évidemment des problèmes à confier du matériel à des ados parce qu'ils sont souvent tête en l'air, comme je disais tout à l'heure. Mais on arrive globalement à très bien utiliser ce matériel. Et c'est vrai qu'il faut parfois qu'on le porte pendant plusieurs heures pour qu'on puisse l'utiliser au moment voulu. Parce que dans un programme d'une journée, on a un programme assez riche, on va filmer différents lieux, on va aller dans des musées, on va aller rencontrer des personnes. Comme tout à l'heure, on a rendez-vous avec Petel Hull, journaliste et ancien dissident, emprisonné deux fois pour justement son engagement. Donc là, il faut qu'on soit prêt avec notre valise d'éclairage, nos micros. C'est pas non plus du très gros matériel, mais on doit avoir un minimum pour qu'ensuite, dans le film, on ait des images et un son de qualité. On ne va pas dire qu'on fait un travail de professionnel, mais avec le matériel d'aujourd'hui, on peut quand même avoir un film tout à fait regardable chez soi ou dans une salle de classe ou même dans une salle de cinéma. Nos films sont projetés parfois dans les salles de cinéma à diverses occasions.
C'est ce que je voulais vous demander un peu, quel est l'avenir des films que vous faites avec ces élèves?
Alors justement, on essaie tout le temps de trouver en amont, c'est tout le travail de la préparation, de trouver en amont des partenaires qui travaillent sur ce sujet-là, qui nous intéresse et qui aimeraient diffuser notre film à des professeurs, sachant qu'ils travaillent avec des classes, donc les professeurs peuvent être des relais, intéressés, puisqu'ils sont déjà sensibilisés au sujet. Alors c'est le cas, on s'est tourné déjà vers le mémorial de Caen, parce qu'on savait qu'ils avaient toute une exposition permanente sur la guerre froide, ce qui est assez rare en France, mais même en Europe, et donc ils ont été très très contents de notre proposition. Alors ils ont été partenaires d'emblée. Alors on a ce partenaire là en France, on va en avoir d'autres en Allemagne, à Berlin. Donc, c'est pour ça qu'on espère qu'on va travailler pour que notre film soit accessible en allemand et en français. On a également le Centre européen de Solidarność à Gdansk qui est très intéressé par la diffusion du projet, du DVD, parce que ça devient un DVD. Voilà. Alors en République tchèque, on ne sait pas exactement encore. Peut-être, ça peut être des musées privés. Nous, on n'est pas. Tout ce qu'on veut, c'est que le DVD arrive dans des mains, je dirais, qui ne soient pas. Ça n'arrive pas dans un placard d'une salle de classe, mais que ce soit donné dans les mains de quelqu'un qui s'intéresse déjà, qui intéresse ses élèves à cette période-là, à ce sujet, et qui puisse l'utiliser soit au retour, soit avec d'autres classes. Voilà, c'est ça notre but, c'est qu'il arrive, qu'il y ait un relais pédagogique avec les professeurs. De notre côté, nous, on est dans la région Bourgogne, et on est soutenu également par notre rectorat qui diffuse. Qui s'est engagé à diffuser d'emblée notre DVD avant qu'il soit fini. Ça, c'est plutôt une preuve de confiance à tous les établissements de Bourgogne.
La qualité du projet pédagogique coordonné par Vincent Moissenet a déjà fait ses preuves. 7 films ont déjà été réalisés. Celui de l'année passée, Écrasons l'infâme, les droits humains en Europe, a même été projeté au siège de l'UNESCO à Paris. Alors pour conclure, laissons la parole à Imen et Anissé, deux élèves de cette classe de 3e projet Action Média.
On apprend beaucoup de choses sur la guerre froide, et on fait de nombreux voyages.
On visite plusieurs pays, on apprend leur culture, on essaye de se mettre dans le même mode de vie que vous.
Et on garde de beaux souvenirs, on voit des beaux monuments.
À la fin, c'est qu'on aura, comme elle dit, un souvenir, le film qu'on va faire. Et puis, c'est un hommage, un hommage qu'on vous rend à l'histoire de vos pays.
Radio Prague en français sur les ondes, c'est terminé pour aujourd'hui, mais Radio Prague sur Internet, ça continue, vous le savez, au www.radio.cz. Merci de votre fidélité. À bientôt. Ahoy.
En su receptor Radio Praga, emisiones de la radiodifusión checa para el exterior. Radio Praga pone su primera emisión para España a las 8 horas UTC, tiempo universal coordinado, por las frecuencias de 11.600 kHz. A las 14 horas UTC transmitimos para España por los 11.720 kHz. A las 18 y 19 horas UTC los oyentes españoles nos pueden sintonizar por 5.930 kHz. Radio Praga transmite a las 20:30 horas UTC para España y América Latina por los 5.930 kHz. Los oyentes latinoamericanos nos pueden sintonizar a las 23 horas UTC por las frecuencias de 9.440 kHz. A las 0 horas UTC salimos al aire por los 9.445 kHz a través de la repetidora en la Isla Ascensión. A las 0:30 horas UTC los radioescuchas de Centro y Sudamérica nos pueden sintonizar por los 9.790 kHz.